Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Djoliba TV, la première chaîne d'information du Mali, et dans votre émission Le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches sur nos différentes pages digitales, notamment les pages Facebook, YouTube, TikTok, mais aussi les différentes stations FM, celles de Bamako, Sikasso et Ségou. Et merci à vous aussi qui nous regardez sur Djoliba TV, voilà, d'ici et d'ailleurs. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Le QG de l'actu qui va s'articuler cet après-midi sur deux thématiques, à savoir la nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation. Oui, la charte qui avait été attendue depuis mars 2025, finalement, c'est le 22 juillet dernier que la remise officielle a été faite sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. C'était le mardi justement au centre international de conférence de Bamako, le comité qui avait été dirigé par l'ancien premier ministre Ousmane Youssoufi Mbeïga. Nous allons essayer de revenir en tout cas sur les enjeux de cette nouvelle charte, hein, qui n'est pas, peut-on le dire ainsi, une première. Qu'est-ce qu'il faut justement comprendre dans cette charte pour la paix et la réconciliation? Deuxième sujet de ce débat, il est vrai que le week-end dernier nous avons aussi évoqué le sujet de deux anciens premiers ministres, à savoir Choguel Kokala Mayiga et Moussa Mara, les deux d'ex-premier ministre face à la transition. Nous savons très bien que Moussa Mara, l'ancien premier ministre, justement, qui avait été convoqué à la Bige et qui a été finalement conduit devant un procureur de la commune 4, est quand même sorti sans charge. Mais nous avons quand même appris, et sinon vu à travers les réseaux sociaux, que Moussa Mara, qui devrait justement prendre son vol pour son traditionnel séjour dans un pays, a finalement été empêché. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se cache derrière, en tout cas, cette intention? Car nous savons très bien qu'aucune charge n'avait été retenue, en tout cas officiellement, contre lui. Qu'est-ce qui peut bien motiver justement cet empêchement? Nous allons essayer de revenir avec nos différents invités. On va aussi parler de Choguel Kokala Mayiga, qui fait parler de lui, justement cette fois-ci, après avoir fini de faire sa clarification. Est-ce qu'on peut dire que Choguel va finalement se justifier? C'est en tout cas l'opinion de question que nous allons essayer de comprendre avec nos différents invités, car il a été justement dit à travers nos confrères du journal Le Soft que Choguel, dans les prochains jours, devrait aller s'expliquer devant la Cour suprême pour des faits justement qui lui sont reprochés. Et pour parler de ces sujets, nous recevons sur ce plateau Youssouf Cissoko, il est directeur de publication, mais aussi fondateur du du journal Alternance, le groupe Alternance. Cissoko, bonsoir.
Bonsoir Barou, bonsoir à tous les téléspectateurs de Djoliba TV et merci pour l'invitation.
Merci à vous, M. Cissoko, d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Soumaïlala, il est ancien chercheur. Soumaïlala, bonsoir.
Bonsoir Omar, merci pour l'invitation.
Merci. Troisième invité de ce débat, Dr Mahamadou Konaté. Justement, il est juriste, hein, publiciste, mais il est également analyste politique. Dr Konaté, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un plaisir, docteur. Notre quatrième invité, c'est un Malien qui réside en France. Il est le fondateur de NG Team, voilà, une société qui est en tout cas spécialisée en informatique et en télécommunication. Vous l'aurez compris, il s'agit de Assey Abba Touré. Voilà, Assey Abba Touré, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Justement, un entrepreneur malien et vous résidez en France depuis 20 ans.
Oui, merci, monsieur Traoré. Merci de m'avoir invité sur votre plateau et au nom de la diaspora.
Merci, oui, au nom de la diaspora, car vous étiez là, monsieur Abba. Monsieur Touré, on va commencer par vous. Vous étiez là dans le cadre du FID, le Forum des investisseurs de la diaspora, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Qui a été aussi suivi de la remise de la charte par la commission de l'élection. Et parlez-nous déjà, monsieur Touré, de votre entreprise. Hein. Vous êtes le fondateur, je disais tantôt, de NG Team, une entreprise qui est chargée, spécialisée sinon, en informatique et en télécommunication.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Et effectivement, et moi, je suis le fondateur de NG Team, une société qui travaille dans l'informatique et les télécoms en France depuis plus de 7 ans. Et après quelques années de développement, on a dû se diversifier pour aller vers un peu dans les transports. Et, alors, donc, on a dû créer la société Green Move, Global Move, qui s'occupe de faire des locations de véhicules électriques de courte durée entre des clients et en passant par des plateformes de partage, d'éco-partage des véhicules. Donc, ce sont ces projets-là. J'ai porté ces projets-là pour pouvoir les présenter. Et d'ailleurs, un nouveau projet qui s'appelle Green Move, qui a été écrit et pensé pour le Mali, pour pouvoir dupliquer ce que nous avons réussi en France pendant des années, dans le sens de l'éco-partage des véhicules électriques, à le dupliquer au Mali, en mettre en place des bornes de recharge assez accessibles et faciles fossiles d'utilisation et autonomes qui sont 100% solaires pour pouvoir pallier un peu à la situation énergétique du Mali et de toute l'Afrique. Voilà. Donc en gros, voilà dans le cadre dans lequel nous avons pu participer au Forum international de la diaspora qui s'est tenu à Bamako récemment.
Très bien. En tout cas, merci pour la précision. Nous souhaitons bon vent à l'organisation, sinon à votre entreprise, société Ingetim. Nous osons croire que dans les jours à venir, nous aurons certainement des relais à Bamako et pourquoi pas dans notre capitale régionale du pays. Ceci dit, nous allons justement parler de la charte de la paix et la réconciliation, laquelle charte, nous l'avons dit, le projet a été remis au général d'armée Assimi Goïta, c'était le mardi dernier au Centre international de conférence de Bamako devant un parterre de personnalités. En tout cas, beaucoup fondent d'espoir sur cette charte qui, selon beaucoup, est inédite parce que, tout simplement, elle prendra en compte tous les aspects de la vie de notre société. Monsieur Sissoko, vous avez certainement suivi ces événements depuis l'installation des membres de la rédaction jusqu'à la remise officielle du projet de charte. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ok, merci Omar pour la question. Effectivement, vous l'avez souligné déjà à l'entame de vos propos, et c'est le 22 juillet déjà que le projet de charte a été remis, si vous voulez bien, au président de la transition, le général Assimi Goïta. Mais avant cela, il y a eu quand même 2 ou 3 jours, en tout cas, d'atelier d'appropriation pour justement pouvoir expliquer, pour que les uns et les autres puissent comprendre un tout petit peu la charte, le contenu de ce projet-là. Vous l'avez souligné également, c'est Ousmane Issoufi, l'ancien Premier ministre, qui était en tout cas le président en tout cas de cette commission de rédaction, qui était composée, il faut le rappeler, d'éminentes en tout cas personnalités et d'éminents chercheurs. Donc je crois que la charte, je ne l'ai pas eue physiquement, mais en tout cas à partir des commentaires ça et là, je pense que comme vous l'avez si bien dit, c'est quand même, ça augure en tout cas d'une paix ou d'une réconciliation, en tout cas si on venait à l'appliquer et si on venait justement à le vulgariser davantage. Et je crois que ce qui est peut-être à regretter un peu, c'est justement le manque d'inclusivité qu'on peut reprocher surtout à cette charte, parce que depuis le départ, il faut rappeler quand même qu'il y a eu d'abord le dialogue intermalien, et c'est ce dialogue intermalien, c'est la suite en tout cas de ce dialogue intermalien qui a été, si vous voulez bien, l'élaboration de cette charte. Et ce dialogue-là, nous l'avons dénoncé ici sur ce même plateau, que ça n'a pas été du tout inclusif. Parce que qui parle de paix et de réconciliation parle déjà des difficultés en tout cas qui se trouvent dans le pays. Et il se trouve que les éléments, en tout cas les acteurs qui sont à la base de ces difficultés-là, certains acteurs sont exclus. Donc je crois que c'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que, en tout cas, cette charte, si elle venait à être en tout cas promulguée, adoptée au niveau du CNT, promulguée par le président, va laisser justement ce petit vide-là. C'est le fait que tout le monde n'a pas été impliqué. D'accord. C'est-à-dire que ça va en tout cas créer une sorte en tout cas de soupçon, d'accord, une sorte de méfiance, parce que tout simplement les acteurs, les principaux, tous les principaux acteurs, comme les partis politiques, comme les groupes armés, si vous voulez bien, rebelles, qui sont qualifiés du reste par les autorités de groupes terroristes, je crois que ça va être beaucoup un handicap pour la mise en œuvre justement de cette charte.
Nous aurons le temps de rentrer dans les manquements à cette charte de la paix et la réconciliation. Docteur Amine, Mohamedou Konaté, faut-il le dire, voilà, c'est bien ça. Alors, ce projet de charte contient 39 chapitres, 16 titres, mais aussi 106 articles. Alors, en quoi cette nouvelle charte est différente des précédentes, en tout cas, rencontres qui ont été organisées par les mêmes autorités, car nous avons vu parler tantôt du DIM, le dialogue intermalien. Il y a aussi les déni bien avant cette charte. Je pense qu'en 2017, feu Ibrahim Boubacar Keïta avait même aussi été parvenu à organiser, en tout cas, une telle rencontre. Il y a aussi les Assises nationales de la Refondation. En quoi cette nouvelle charte est différente des autres?
Alors, à ma connaissance, il y a eu un seul exemple de ce genre par le passé, c'est effectivement la charte élaborée en 2017 par le régime d'IBK, et qui s'appelait aussi la charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Et cette charte a ceci de différent de celle de la présente, qui est encore en état de projet, ça, il faut bien le souligner. C'est que l'ancienne se focalisait sur les questions d'unité et de paix, dans les questions de sécurité de façon générale. Donc c'était vraiment une charte qui traitait de son objet, et exclusivement. Donc elle questionnait les causes profondes des conflits qui ont marqué l'évolution de notre État. Et elle interrogeait bien sûr les facteurs de diversité culturelle qui ont soit pris part à ces conflits ou qui peuvent servir de piste de solution pour y sortir. Et également les acteurs qu'il faut mobiliser pour arriver à une unité bien réelle et aussi à une paix solide. Mais le projet de la présente charte, il va au-delà de son objet. Il ne traite pas que de questions de paix et de réconciliation. J'ai même l'impression qu'il en traite moins. Il parle beaucoup plus de questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. C'est les questions d'emploi, d'environnement, de développement. Vous l'avez entendu de la bouche des premiers responsables du pays, qui pensent que ça va être un document de référence pour toute politique de développement à venir. Donc c'est comme une sorte de constitution bis, j'ai envie de dire, alors que ce n'était pas ça l'objet de la charte. Et c'est pour cela que je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas associé les vrais acteurs avec lesquels il fallait discuter de réconciliation, ou même de paix. Il l'a rappelé Youssouf, le DIM s'est organisé sur le fond de suspension des acteurs politiques et des partis politiques et des associations, et qui a provoqué, peut-être sans le souhaiter, l'exclusion d'une bonne partie des acteurs de notre société civile et de notre société politique. Et donc, c'est suivant les recommandations de ce DIM qu'une commission a été donc créée par le président, avec sa tête, Mario Youssouf Mbaïga, pour élaborer le présent projet de charte. Donc, de fil en aiguille, ce manque d'inclusivité, malheureusement, a continué à marquer le produit qui était en fabrication. D'accord. Donc, pour vraiment sortir de ce commentaire, sur ce point, je voudrais peut-être rappeler une citation qui me semble très pertinente. C'est « Qui embrasse trop, mal étreint ». Et je pense que ce projet-là, si jamais il est adopté en l'état par le CNT, parce que le CNT a la latitude de modifier, okay, théoriquement, si jamais ça passe là-bas, en l'état, et que le président est le premier candidat, j'ai bien peur qu'il ne souffre d'une inapplicabilité consubstantielle, comme ce qu'on a reproché à la Cour d'Alger. Okay. Ça ne va pas être applicable. D'accord. Moi, j'ai envie de vous dire le contraire, mais c'est mon avis d'analyste.
D'accord.
Ça va être... Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai une suggestion à faire, c'est de ne pas envoyer ça au CNT. Il ne faut pas en faire une sorte de loi. Il faut le garder comme une sorte de charte morale, politique. Et en ce moment, on a la liberté un peu de voyager à l'intérieur, de prendre ce qu'on peut prendre, peut-être dans la pratique, de modifier certaines choses. Mais si nous la codifions sous forme de loi, ça devient un peu plus rigide.
Okay.
Et si dans la pratique, on ne peut même pas à l'appliquer, on va être pris à défaut, et cela va davantage jouer contre le port public.
Très bien. Voilà. Le temps de faire réagir rapidement, M. Soumaïla. Là, à entendre le docteur Mahamadou Konaté, on a quand même l'impression que cette charte a dévié carrément de ses prérogatives qui lui avaient été confiées depuis le départ en parlant de paix et de la réconciliation, car une charte qui parle de gouvernance, certains même considèrent comme une sorte de boussole, hein, en tout cas, il a rappelé, certains aussi le voient comme étant une sorte de constitution. Alors, est-ce que réellement il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ça, monsieur là?
Moi, je pense qu'il est... Amine a magistralement bien brossé la situation. Donc, ce serait une erreur. Je suis ton ami, donc je t'appelle.
C'est le plateau, c'est le docteur Konaté.
Exactement. Okay. Donc, ce serait une redondance de revenir sur cet aspect-là. Mais je voudrais juste dire que c'est toujours une bonne chose d'aller vers des initiatives qui font la promotion de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale. Okay. Mais encore faudrait-il que les portages soient de bonne foi et que le portage ne soit pas instrumentalisé. Malheureusement, nous, quand on parle, on a l'impression qu'on est contre X ou Y, ou qu'on est contre la transition. Ce n'est nullement le cas.
Okay.
Quand on parle, c'est par rapport à un principe, c'est par rapport à une position donnée, et il y a une certaine constance. Malheureusement, sous nos cieux, Ces dernières années, on a eu à organiser une ribambelle ou une flopée, si vous voulez, de foras, des rencontres, d'assises, etc., etc. Pour quelle fin ? À quelle fin ? Pour quelle fin ? Avec une flopée de recommandations, pour quels résultats ? Des recommandations qui, véritablement, n'ont jamais, pour la plupart, été mises en œuvre. Des recommandations qui sortaient largement, par moment, du cadre substantiel. Et des recommandations, par moment, qui n'ont servi qu'à légitimer un choix qui était, par moment, contraire au cadre substantiel. Donc, partant de là, je suis quand même un peu dubitatif sur une quelconque volonté de portage de cette charte pour la paix et la réconciliation, quand on sait que le processus, Youssouf l'a rappelé, Konaté est revenu dessus, a manqué d'inclusivité. Et je suis de ceux qui disent tout le temps que gouverner un pays en crise, c'est quand même préférer la vérité, aussi inconfortable soit-elle, à tout ce qui est propagande facile. Diriger un pays en crise, c'est véritablement faire preuve d'ascendance par rapport à beaucoup de choses. Et malheureusement, ces derniers temps, on a l'impression que nous continuons à nous enfoncer dans une logique de pouvoir personnel, encore une fois, okay, au détriment d'un pouvoir institutionnel. Maintenant, au-delà de la charte, je pense que si le portage devait se faire et que la volonté réelle est là, ce portage doit se faire au prorata, on va dire, des besoins des Maliens sur un certain nombre de questions.
D'accord.
Premier besoin pour moi, c'est de faire en sorte que les services sociaux de base, les bénéfices des services sociaux de base deviennent une réalité. C'est de faire en sorte que l'exemplarité devienne une réalité. C'est de faire en sorte que le budget soit utilisé de façon équilibrée. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à 80% des recettes qui sont réparties entre la défense et la sécurité, les salaires et les paiements des intérêts pour les prêts. Vous n'avez que 20% pour les autres secteurs.
Okay.
Or, quand il n'y a pas d'équilibre entre les différents secteurs, on crée une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment parce que le cadre social, le support social qui doit permettre d'aller vers le vivre ensemble, de gommer les inégalités, on ne pourra pas le faire et in fine, on va aller vers des cycles interminables de remise en cause.
Très bien. Alors, M. Touré, vous avez eu quand même la chance d'être dans la salle, c'était le mardi dernier, pour la revue officielle de cette charte au nom de la diaspora. Vous avez représenté la diaspora française. Quel est aujourd'hui le sentiment qui vous anime et quelle est la lecture que la diaspora se fait de cette charte?
Je vous remercie. Je vais vous demander, je me permets de ne pas être en phase avec mes prédécesseurs sur la charte et sur beaucoup de points. Et je vais essayer de m'expliquer. Parce que, de mémoire, la charte est une émanation du dialogue intermalien. Et avant le dialogue intermalien, on a eu beaucoup d'assises, comme mes prédécesseurs ont souligné. On a beaucoup d'assises qui ont abouti à certaines, dont cette charge, cette charte. Et on a eu les assises nationales de refondation, on a eu le DNI, le dialogue intermalien, on a eu les concertations sur la charte des partis politiques. Et ensuite, c'est après que est venue la suspension des partis politiques sur indication, sur recommandation de certains participants, je ne dis pas toutes, de certains participants. Et moi, permettez-moi de me dire, je pense que cette charte-là est un tournant important pour la refondation de ce pays. À mon avis, à ce que j'ai vu, parce que pour avoir participé aux assises nationales, pour avoir participé au DNI et pour avoir participé à l'élaboration de cette charte dès le début, depuis Paris jusqu'à Bamako, et moi je trouve, contrairement aux autres chartes qu'on a eu à valider, que cette charte-là a pesé de tout son poids en termes d'inclusivité. C'est exactement le contraire que je pense de ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que cette fois-ci, tout le monde a été associé, à mon avis, et j'ai pu le constater dans la salle quand on a commencé, et j'ai vu les délégués de tous les coins et les recoins du Mali. J'ai vu la représentation des syndicats, la représentation des régions, des femmes, des jeunes, et tout le monde était représenté, et cela est une grande inclusion pour moi. Donc ça, c'est très, très important. Ce que je pourrais dire aussi, qui va par rapport à cette charte, par rapport aux autres chartes qui sont là, les autres chartes et la différence fondamentale de cette charte, c'est que cette charte s'appuie sur la valeur d'État-nation du Mali. Le Mali n'est pas simplement un État. Et pour cette charte-là, elle s'est fondée sur les valeurs d'État-nation. C'est-à-dire que nous avons une communauté de peu de population, nous avons une communauté de territoires, des personnes qui ont vécu sur le même territoire pendant longtemps, historiquement, des personnes qui ont la même histoire, parce que les différents royaumes, l'Empire du Mali, l'Empire Bambara, l'Empire Songo, se sont succédés sur le même territoire avec la même population. Donc ça, c'était un fondement d'État-nation. Et la charte s'est appuyée là-dessus pour pouvoir le faire. C'est ce qui différencie fondamentalement cette charte des autres. Et je pense que cette charte-là est une boussole, est une référence pour pouvoir désormais plancher sur tout ce qu'il y a comme opposition entre Maliens de l'intérieur, de l'extérieur, et même entre le Mali et le monde entier.
Oui, justement, c'est ce que beaucoup de gens pensent, et notamment ceux-là même qui ont pris part à la rédaction de la charte, ils s'y réjouissent en tout cas de son caractère inclusif. Sauf que, M. Touré, alors quand on parle de paix, quand on parle de réconciliation, cela suppose quand même qu'il y a des camps alors opposés, et ces groupes armés qui sont toujours en tout cas actifs, est-ce qu'ils ont été, ils sont venus parce que peut-être l'appel a été lancé, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Que répondez-vous à cela?
Alors, ce que je réponds, si déjà vous l'avez souligné que l'appel a été lancé et tout le monde a été convié pour participer à cette charte-là. Et ceux qui disent que, par exemple, les partis politiques n'ont pas participé, je rappelle que cette charte-là, l'élaboration de cette charte a commencé il y a plus d'un an et que les partis politiques n'étaient pas suspendus. Et ben, les partis politiques ont eu la latitude de participer aux différents débats. Et d'ailleurs, ils ont participé parce que moi, j'étais là, j'étais président de commission à Paris pour les différentes discussions. Et j'ai vu que les partis politiques ont participé jusqu'à la dernière, qui était les consultations sur la charte des partis politiques. Donc, pour moi, tout le monde a participé. Ceux qui, par exemple, quand on lance un appel, on dit je t'ai convié à venir pour qu'on puisse parler, que tu ne viennes pas. Ben, cela n'est pas de ma faute, je ne peux pas faire autrement. Okay. Donc, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas, continuer dans cette lancée-là. On est obligé de trouver une solution pour pouvoir apaiser ce pays, et on y va avec ceux qui veulent être avec.
D'accord. Oui, quand je vois le comportement de Dr Konaté, j'ai l'impression qu'il essaie de braises. Hein. qu'est-ce qui se passe, docteur?
Je vais commencer par juste poser quelques questions à mon frère, qu'il me cite concrètement une date ou une circonstance où les autorités ont lancé cet appel-là aux groupes armés rebelles pour venir discuter et ensemble à l'élaboration de la charte. Qu'il me cite une seule date ou une circonstance.
Alors, docteur Konaté, dès l'instant que les autorités quand même disent à tous les Maliens, tous les bords, de se retrouver autour d'une même table pour discuter, est-ce que cela valait la peine d'envoyer des émissaires auprès de ces gens-là pour les faire venir autour d'une table?
Mon cher, ce que j'ai entendu de certaines autorités, c'est que ils vont pas discuter avec les groupes qui considèrent comme terroristes. C'est les responsables, eux-mêmes qui ont dit ça. D'accord. Ça, c'est un. Donc, tous les Maliens n'ont pas été invités. Et deux, quand on parle de représentativité, il ne faut pas le résumer à une représentativité territoriale, parce que ça peut facilement tromper. Et regardez même un parti politique ou une association qui veut faire une rencontre au niveau national. Si elle fait venir des délégués du village de Sikasso, du cercle de Sikasso, de la région de Sikasso, des délégués du village, des cercles, et des régions et de la région de Kaï, ainsi de suite, bah, qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire? Mais c'est représentatif. C'est représentatif pour qui? Pour cette association, pour ce parti. Ce n'est pas représentatif pour la nation. C'est représentatif au terme d'inclusivité dans la diversité des acteurs par rapport à l'idéologie politique, religieuse, et ainsi de suite. Donc quand on parle de représentativité, on ne veut pas dire représentativité dans l'invitation de ses partisans. Non! C'est représentatif par rapport même à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous parce que nous partageons le même pays. C'est le pouvoir qu'on a, ce n'est pas un pouvoir personnel. Ce n'est pas un pouvoir au service de notre intérêt clanique ou partisan. Si on pense comme ça, c'est qu'on n'a rien compris du pouvoir. Donc ce pouvoir, c'est pour tous les Maliens, ça doit être au service de tous les Maliens. Mais il ne faut pas que notre séjour au pouvoir se transforme en un séjour juste de népotisme. Donc, je reviens à l'essentiel de la question. Ça n'a pas été représentatif. Vous ne pouvez pas dire aux gens, écoutez, on va à une rencontre nationale, venez, on vous invite. En même temps, vous leur dites, mais votre organisation, ben, je la suspends. Donc, toutes les discussions que vous devez avoir à l'interne pour construire une proposition en nom de cette organisation, vous ne pouvez plus la porter.
vous ne pouvez plus la porter. Et de quel droit? Parce qu'il faut rappeler que cette suspension a été faite de façon illégale. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ces acteurs ont refusé de prendre part à ce dialogue dit intermalien. Et la commission n'a pas été du tout représentative au regard de cette diversité. Revoyez les décrets de nomination. Nous avons des centaines de partis politiques ici. Nous avons des centaines d'associations politiques ici. Nous avons des centaines de notabilités de différentes sensibilités ici. Ça n'a pas du tout été représentatif et inclus de ce point de vue-là.
D'accord.
Donc, je vais l'écouter, hein, la réponse, je vais bien la voir. Est-ce que,
je voulais quand même
est-ce que okay. ça a si été vraiment la volonté politique d'inviter le Malien dans la diversité à cette rencontre?
Je pense que vous
pouvez peut-être venir commenter.
Et rapidement.
Vous savez, je vais mettre ça sous forme de question. Quelle différence trouve-t-il dans... Bon, il n'a pas encore le texte, je suis sûr, mais ce qu'il a entendu du contenu de ce projet de charte avec le contenu des recommandations issues des Assises nationales de la Réformation. Les 500 et quelques recommandations. Quelle différence trouve-t-il entre ces deux-là?
Je pense que M. Touré se fera le plaisir de répondre à ces questions. Oui, maintenant, on va pouvoir réagir, M. Sourou.
C'est très intéressant.
Alors, à entendre parler, en tout cas, monsieur, Dr Amine, Dr Konaté, il faudrait s'habituer finalement à Amine, accepter le volontiers quand même. Voilà. Alors, on parlait tantôt de son caractère inclusif. Vous l'avez même décrit tout à l'heure. Là, vous avez dénoncé, j'allais dire. Alors, si vous avez été justement, monsieur, sur la place d'autorité, qu'allez-vous faire?
Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais juste réagir sur ce que Touré a dit. En fait, parce que je ne peux pas comprendre, moi, qu'on parle de réconciliation, qu'on parle de paix, en excluant un pas important de la société. Il a parlé des partis politiques, ça c'est un fait évident. Et combien de Maliens sont aujourd'hui en exil forcé? Vous parlez de réconciliation en mettant tous ces enfants du pays en dehors du pays? Alors, les groupes armés qualifie de terroristes.
Qu'on est en conflit.
Franchement, est-ce qu'on peut parler de dialogue, qu'on peut parler de réconciliation et de paix sans ces groupes armés-là, qui sont des Maliens?
Qui entretiennent le conflit.
Qui sont des Maliens. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Et puis le fait justement de dire chaque fois, oui, ça a été inclusif, oui, de Kaya, Kidal, tout le monde a participé. Je crois que c'est un discours, franchement, créé à mon avis. La réalité est toute autre chose. Les Maliens n'ont jamais été divisés, autant divisés que sous la transition. Ça, c'est un fait qui est réel. Aujourd'hui, c'est juste, en tout cas, un groupe qui gouverne. Et ce groupe-là, excusez-moi l'expression, a ses affidés qui sont là, qui viennent en tout cas autour des différents forats et qui décident justement au nom du peuple. Sinon, nous savons tous que nous avons une constitution et cette constitution est très claire. Elle définit en tout cas la voie par laquelle il faut passer pour accéder au pouvoir. Franchement, arrêtons justement de jouer chaque fois sur en tout cas l'unité nationale, sur autre chose.
Mais sauf que M. Sokho n'a aucun pouvoir aussi, il a fait quand même l'unanimité, vous le
oui, d'accord, oui, d'accord, mais ça veut dire qu'au moins les autres pouvoirs ont respecté un peu les principes souverainement établis. Okay. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas ici. Okay. Il y a la charte, il y a la constitution, il y a une autre charte, il y a une autre constitution. Franchement, on ne sait même pas quelle est la loi, quel est le texte qui gouverne aujourd'hui, sur la base de quel on gouverne le pays.
Et si demain, cette nouvelle charte venait à être adoptée et promulguée, est-ce qu'elle va aussi s'ajouter aux
justement,
autres
pays? Justement, Amine l'a dit, mais ça risque d'être en tout cas une constitution bis qui est...
D'accord. Alors, Soumaïra, là, beaucoup d'observateurs aussi disent que pour supplanter à l'accord d'Alger, qui a été quand même récusé par les autorités il n'y a pas très longtemps, cette nouvelle charte va venir justement remplacer. C'est ce que beaucoup de gens pensent, hein, c'est pas le propos de moi. C'est ce que beaucoup de Maliens pensent aujourd'hui. Alors, en quoi cela va changer fondamentalement? Parce que beaucoup aussi qui ont participé à la charte de la paix pensent que, au moins pour une des rares fois, les Maliens sont retrouvés autour d'une même table sans ingérence étrangère. Et parce que tout simplement, il y avait des suspicions quand même qui planaient sur d'éventuelles, en tout cas, ingérences étrangères.
Ça me fait sourire et ça va me permettre en même temps de répondre aussi à Touré encore une
fois. Ah, décidément, Touré, il a du pain sur la planche aujourd'hui. allez-y rapidement.
Ce n'est pas le même type d'accord. Cette charte n'est pas un accord type accord d'Alger. Ça n'a absolument rien à voir. Et pour parler de paix et de réconciliation, il faut être en conflit avec une autre personne. Il faut être dans un cadre où on n'est pas en phase avec quelque chose, avec un groupe, avec une personne ou avec une portion du peuple. Mais quand on décide d'adopter ou d'élaborer une charte qu'avec des personnes qui sont d'accord avec nous, je ne qualifie pas ça de charte, je ne qualifie pas ça de réconciliation. Quand dans les choix...
Si tu permets, on ne réconcilie pas les gens qui sont en accord.
Justement.
On réconcilie les gens qui sont en désaccord.
Qui sont en désaccord, absolument. Quand dans les choix des personnes qui doivent venir discuter, on donne toute la latitude au chef de l'exécutif régional ou de l'exécutif local de choisir des personnes qui sont d'accord avec les pouvoirs. on est en droit de se poser des questions. Youssouf l'a rappelé, de mémoire, je n'ai jamais vu les Maliens autant divisés sur la conduite du destin commun, de mémoire. Hein. Et encore une fois, gouverner un pays en crise, véritablement, c'est faire preuve, encore une fois, et c'est extrêmement important, de compréhension large et d'acceptation véritablement des contradictions. Tant qu'on n'accepte pas les contradictions, on n'est pas outillé pour gouverner un pays en crise comme le Mali. Et le fait d'aller encore une fois vers cette charte, sous cette transition, pour moi c'est un mécanisme de plus qui s'ajoute à la longue liste des mécanismes qui jusque-là n'ont produit aucun résultat. Ne serait-ce que sous cette transition, on a eu droit aux concertations, on a eu droit aux assises nationales, on a eu droit au dialogue intermalien. Aujourd'hui, on a une charte. Moi, je ne vois pas l'utilité. Et à chaque étape, on a justifié quelque chose qui a permis au pouvoir de s'asseoir, qui a permis au pouvoir d'avoir une certaine assise. Et à la longue, je pense que nous avons aujourd'hui un levier. Nous avions un levier qui permettait aux Maliens de s'asseoir, de discuter. Mais à la longue, les gens vont se dire, bon, les discussions, ça ne sert plus à rien.
D'accord. Touré,
oui, suffisamment de temps. Ben, je vais réagir. Par contre, avant de continuer, je vais préciser que j'apprécie vraiment le débat et que les uns et les autres expriment vraiment leur fond d'idée et que je pense que c'est démocratique. Mais pour moi, pour préciser, moi je suis un Malien établi à Paris depuis plus de 20 ans et je fais beaucoup de navettes ici. J'ai créé une société ici à la place qui travaille. J'ai des sociétés en France, je travaille et je vois et je participe vraiment et à plein temps dans toutes les activités politiques qui ont relation avec le Mali culturel et tout, à Paris là-bas et même partout en Europe, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Okay. Alors ceci étant, ce que je vais dire, je vais encore, parce que moi, ce n'est pas qu'une question d'impression. Moi, j'ai pratiqué le Mali, j'ai entrepris au Mali. Parce que une fois que tu entreprends au Mali, réellement, tu vas comprendre tous les problèmes du Mali. À mon sens, cette charte-là a eu l'inclusivité la plus importante depuis l'avènement de la démocratie au Mali.
Vous avez passé...
Je vais en venir.
Six mois au Mali, c'est 5 dernières années, 6 mois en continu.
Pas en continu, mais tous les 3 mois, je
vous invite à venir passer 6 mois en continu.
Pas en continu, mais je reviens très souvent. Okay. Parce que j'ai une société sur place que je pilote, et on me fait des... Mais ceci étant, je vais vous dire, parce que c'est peut-être une incompréhension pour dire que, par exemple, je donne un exemple, les partis politiques ont participé à l'élaboration de cette charte avant la dissolution des partis politiques. Je répète encore que cette charte-là, la rédaction de cette charte-là a commencé il y a plus d'un an avec l'ex-premier ministre Ousmane Issoufou Maïga et qu'ils étaient en mission et que tout le monde a été convié, je pense qu'on a été convié pour donner notre avis, chacun a été convié pour donner son avis lors des concertations nationales sur la charte et à tous les niveaux. Vous parlez des groupes armés. Je peux dire, par exemple, pour moi, il y a un distinguo à faire entre les groupes armés et par exemple, les MNLA qui veulent une certaine autonomie, une sorte d'autonomie, et ceux, les groupes armés qui sont affiliés aux groupes armés islamiques. Ceux-là, je pense que la plupart, quand tu regardes, tu analyses ces groupes armés, 80% des personnes qui composent ces groupes armés ne sont pas des Maliens. Okay. Les islamistes, je ne parle pas des MNLA ou d'autres.
Aujourd'hui, 90% c'est des Maliens.
Et j'ai dit aujourd'hui, je ne sais pas, mais au début, à la base, parce que c'est des groupes qui ont été importés dans notre pays pour d'autres raisons. La preuve, les MNLA s'est allié à ces groupes dans les années 2012-2013. On a vu ce que ça a donné. Ils ont occupé les 2/3 du Mali et ils ont forcé les MNLA elles-mêmes à quitter certaines choses. On dialogue avec des Maliens qui veulent être dans le Mali. L'appel a été lancé pour l'élaboration de cette charte, pour participer à cette charte au niveau national et partout,
partout où il y a les Maliens, ça a été fait. Et les Maliens qui se sentent concernés et qui veulent participer à la construction du Mali ont participé. Donc pour moi, c'est largement suffisant.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on arrête ce débat superficiel et qu'on ait un profondeur par rapport à la chose. Voilà.
C'est un détail extrêmement important.
Oui.
Tout ce qui a été organisé comme fora rencontre a été estampillé peuple ou force vive de la nation. Et des recommandations ont été faites. Et au rang de ces recommandations, au niveau des assises nationales, qu'est-ce qui a été dit? On dit de négocier avec les groupes armés.
Les
groupes terroristes et les groupes armés.
C'est des Maliens.
C'est des Maliens. Si on part sur le postulat que M. Touré suit, on est en droit de se dire, bon, les Maliens ont fait un choix. Pourquoi les autorités ne sont pas allées dans le sens de ce choix? C'est une question que je pose à M. Touré.
Je vais répondre.
Lui aussi, c'est un moment
de la négociation. Il a marché sur ma langue. Oui, moi j'ai participé au dialogue national inclusif. J'étais l'un des 6 experts. Moi, j'étais commis pour traiter la question de la gouvernance. J'ai produit un rapport là-dessus. Il y a eu une résolution, je crois qu'on a publié à peu près 5 résolutions, une résolution exclusivement consacrée au dialogue, à l'appel en tout cas au dialogue avec le groupe terroriste malien. Et dans cette résolution, on a nommé avec Yael Agali et Amadou Koufa. Et en 2019, ce dialogue national inclusif, du discours du président de l'époque, en tout cas des autorités de l'époque, c'était le meilleur dialogue qui n'avait jamais eu lieu entre les Maliens. C'est toujours comme ça. Chacun pense que oui, ce qu'il organise, c'est le meilleur forum qui n'a jamais existé. Chacun en sent ce qu'il a fait. Même le DIM qui vient de se terminer, une des recommandations, précisément, demander de discuter avec le groupe terroriste.
Oui, on demande même un dialogue doctrinal entre ces gens.
Mais c'est clair. Mais voilà, ils ont une approche sélective, même par rapport aux recommandations de leurs propres partisans. Donc, les recommandations qui ne vont pas dans le sens de leur agenda, ils mettent ça de côté.
Donc, les décisions à la carte, c'est bien
ça. Mais à la carte, mais oui, c'est sélectif. Donc, les recommandations qui vont dans le sens de leur agenda, ils prennent ça et ils disent, voilà, les Maliens ont dit, en fait, voilà ce que nos partisans ont demandé.
Vous aviez des inquiétudes, docteur Konaté. Oui. Vous parlez tantôt, si vous étiez peut-être au CNT, vous n'aurez peut-être pas adopté cette charte.
Je propose... Mais pourquoi? Quelles sont les raisons? En fait, c'est vraiment un intérêt purement juridique. Parce que quand vous amenez la charte au CNT, sous quel format il va être voté? Logiquement, il peut voter une loi portant charte pour la paix et la reconstruction au Mali. Ça peut être ça. Et là, ça va se classer dans l'ordonnancement juridique de notre pays. D'accord? Donc, ça va avoir une valeur de loi. Alors, si ce n'est pas sous forme de loi, mais sous quel format vous allez adopter cette charte-là? Alors, nous avons la loi qui peut voter, une loi ordinaire ou une loi organique, voilà, ou une loi constitutionnelle, voilà, comme nos constitutions le permettent, etc. Non. Donc, je pense qu'une fois qu'ils mettront ça dans une loi, ça devient rigide. C'est-à-dire que les structures seront tenues d'appliquer chaque virgule là-dedans. Et moi, je vous dis, c'est impossible. Parce que cette charte, malheureusement, n'est même pas une charte pour la paix et la reconstruction nationale. C'est une charte pour la gouvernance du pays. Si je cherche une expression un peu, un peu bateau. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est une sorte de constitution liste.
Donc, on n'aurait pas besoin de tout ça.
Si on voulait traiter de la paix et de la réconciliation des Maliens, on n'aurait pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces répétitions-là sont déjà dans d'autres documents.
Touré, vous avez la parole.
Alors, donc, je vais encore réagir.
Ok.
Bon, c'est très intéressant de pouvoir réagir après le docteur et après les autres prédécesseurs parce qu'ils ont ils ont des arguments qui sont percutants et qui... Mais au-delà de ça, moi, ce que je vais dire, il faut revoir cette charte-là dans l'historique des chartes que le Mali a eu à faire. Le Mali, par exemple, et ce n'est pas que des chartes, par exemple, cette charte-là, elle est appelée à remplacer les accords d'Alger qui n'ont pas fonctionné.
C'est une question, je ne vais pas commenter.
Oui.
Comment est-ce qu'elle peut remplacer un accord qui a été négocié entre des parties en conflit? Alors qu'elle, elle n'est que le produit d'une partie.
J'en arrive.
Donc ça veut dire, soit vous faites la paix,
si vous
la
commission, soit vous
n'allez pas la paix.
Si vous me laissez la
question, tout rapidement.
Vous aurez la réponse de votre question dans ce que je vais développer. Et cette charte-là est l'émanation du peuple. Ce n'est pas un slogan creux que j'ai dit. Je vais vous expliquer. Je vous dis pourquoi. Cette charte-là, quelle est la différence entre cette charte et les autres? On a vu les accords de Tamanrasset, on a vu les accords de Ouagadougou, on a vu les accords d'Alger. Pourquoi ces accords n'ont pas marché?
Parce que le défaut essentiel, le problème essentiel qui se posait dans tous ces accords, ce sont des accords qui ont été mis en place avec la participation de personnes et de régionales, des autorités régionales, des autorités internationales, des étrangers, on va dire, entre guillemets, entre guillemets. C'est les étrangers qui sont venus parler entre les Maliens et ça n'a pas marché. Nous avons déjà essayé.
D'accord.
Nous l'avons expérimenté. J'en viens pour vraiment répondre à mes collègues parce qu'ils ont, ils ont beaucoup.
On est vraiment pris par le temps, les rapides.
D'accord, ben j'y vais. Okay. Donc cette charte-là, la différence de cette charte-là, c'est que cette fois-ci, cette charte-là a été élaborée exclusivement entre des Maliens. Que des Maliens, il n'y a aucun étranger à dire. Le problème qu'il y a dans notre pays, nous allons le résoudre, nous allons nous asseoir et le résoudre ensemble. Et cette charte-là, comme mon collègue disait, ce sera une loi, à mon avis, parce que moi j'ai une copie de la charte, après avoir remis lors de la cérémonie officielle à une copie au président de la République, au président de transition, le président de transition Assimi Goïta, une copie a été remise à tous les délégués qui ont participé. Okay. Moi j'ai la mienne et je l'ai lue. Donc je vous dis, la différence essentielle, c'est que ce sont les Maliens qui sont assis pour élaborer cette charte entre eux. Premier point. Deuxième point, la charte, à mon avis, il va passer au CNT et ce sera une loi organique.
Okay.
Okay? Une loi organique, comme la loi organique, il y a d'autres lois organiques qui existent, la loi organique qui régissait les partis politiques. Ce n'est pas une loi qui va être... C'est une loi qui est une loi organique, c'est un cadre dans lequel on s'appuie pour résoudre, par exemple, dans ce cas précis, pour résoudre tout ce qui a conflit entre Maliens, entre le Mali et les autres pays. Ouais, c'est pourquoi il y a des volets économiques dedans, des volets santé, des volets,
tout.
Il y a beaucoup de choses dedans.
Développement, tout.
Mais environnement, développement, tout ça, c'est tout. Important. Okay. Sans ça, il n'y a pas de paix.
D'accord. Alors, oui, docteur, vous avez la parole.
Rapidement, les manquements par rapport à ça. Vous m'avez posé une question, là. Je crois que je
n'ai pas... Si vous étiez les autorités.
Voilà, je crois que si les Maliens ont une soif aujourd'hui, c'est la soif de la paix et de la réconciliation. Franchement, ils viennent d'encenser, en tout cas, leur charte, cette charte-là, la charte nationale. Mais je vous dis que cette charte-là a beaucoup d'insuffisances. Et l'une des insuffisances, il vient de le rappeler, c'est le fait justement que non seulement certains ont été exclus, c'est-à-dire que ceux qui doivent jouer le rôle d'arbitre, il n'y a pas d'arbitre. Alors, c'est pour tout simplement dire que c'est juste un monologue entre partisans du régime et qui nous ont proposé en tout cas un document. Et ce document-là, franchement, j'ai peur que ça ne soit pas comme tous les autres documents. Et je dis encore une fois de plus, c'est vrai, il a rappelé, certains pensent que c'est une alternative justement à l'accord d'Alger. Mais je crois que cette charte est fondamentalement différente en tout cas de l'accord d'Alger. Donc si j'étais à la place en tout cas des autorités, c'est de faire en sorte qu'elle laisse encore une porte ouverte et qu'on permette en tout cas à tous les Maliens d'y prendre part et d'apporter en tout cas leur petite contribution, leur petite pierre pour que ça soit véritablement une charte pour la paix et la réconciliation.
Oui, Soumaïla, rapidement. Dire que c'est une charte qui a été élaborée par les Maliens pour les Maliens, c'est un discours creux de mon point de vue. Creux pourquoi ? Parce que quand on parle de réconciliation, il faut une personne externe aux entités en conflit. Ça, c'est un principe. Que ce soit socialement, quand deux personnes sont en conflit, c'est toujours une personne tierce qui fait une intervention. Ça, c'est évident. Et la typologie des réconciliations dans un pays en crise, c'est qu'il y a toujours un pays frère qui a une certaine facilité à discuter avec les partis et à mettre les partis autour d'une table pour convenir de quelque chose. Si on constate aujourd'hui que cette charte n'est pas inclusive, c'est parce que les deux partis ne sont pas à même de s'asseoir autour de la même table et discuter. Okay. Et en cela, une intervention tierce était nécessaire. Il fallait un arbitre, comme Youssouf l'a dit.
D'accord.
Maintenant, pour un peu répondre à Konaté et faire un peu de fétichisme du droit, là où on... De façon terre à terre, hein, la Constitution a été foulée du pied. Ce n'est pas une loi organique qui sera épargnée.
D'accord. Docteur, je vais quand même réagir rapidement.
Premièrement, ça ne peut pas être une loi organique parce qu'une organe doit être prévue par la Constitution. Donc, pour qu'il soit une loi organique, il faut qu'il change la Constitution ou il change la charte pour le prévoir. Donc, ça ne peut pas être une loi organique. Alors, et deuxième chose, en dehors de ce que mon frère Soumaïla a dit, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse avoir un dialogue entre Maliens.
Okay.
Parce que même entre Maliens, on peut avoir une tierce personne. Ce n'est pas tous les Maliens qui sont dans les partis politiques. Il y a des Maliens qui n'ont pas pris parti entre les protagonistes, les belligérants. Ça aurait pu se faire, mais ça serait dessiné autrement. Ce n'est pas du tout juste de dire que c'est la première fois qu'une charte est élaborée par les Maliens seuls. Mais attention là, on vient de parler de la première charte de 2017, qui a été élaborée à l'issue de la conférence d'entente nationale. Il n'y avait aucune puissance étrangère impliquée là-dedans. Et c'était Baba Aguibou qui dirigeait cette commission. C'est les Maliens qui l'ont élaboré.
Mais qui n'a pas été appliqué.
S'il vous plaît, c'est le même sort qui attend. Parce que votre, je l'ai dit, hein, chaque parent, tu vois, encens son bébé. Moi, je comprends. Parce que vous l'avez fait, vous l'encensez, c'est normal ça. Mais vous allez vous rendre à l'évidence. Parce que l'histoire va vous attraper. Le même sort vous attend. Pourquoi? Parce qu'on a dit, tous les défauts qu'on a révélés là, ce n'est pas des défauts de complaisance, hein. C'est des défauts objectifs. Donc, tant que ces défauts n'ont pas été pris en compte, ça va être un enfant mort-né. En tout cas, ça va pas faire long feu. Ça va être un document de plus.
Très bien. Vous parlez tantôt de l'inapplicabilité hein, de la charte qui a été élaborée sous le président de fin, Ibrahim Boubacar Keïta, quand le professeur Baba Hakim était président de cette commission. Alors, cette autre charte, elle est là.
Dans quelques années, on verra.
Elle vient d'être élaborée, bien qu'on attend son adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition générale de l'armée, Assimi Goïta. Alors, que vaut, en tout cas, une charte? Parce que c'est les textes qui sont là, sans sa mise en œuvre.
Alors, ce que je disais, c'est je n'ai pas parlé d'inapplicabilité de la charte qui a été élaborée sous IBK. J'ai dit tout simplement qu'elle n'a pas été appliquée. C'est différent de l'inapplicabilité. Okay. Cette charte-là, dans cette charte-là, quand on regarde à l'intérieur de cette charte-là, il y a des mécanismes. Cette charte-là, d'abord, elle va être traduite dans plusieurs langues du pays. Elle va être vulgarisée. Il y aura des structures qu'ils ont mises en place pour veiller à l'application, à la vulgarisation de cette charte-là et que tous les Maliens puissent s'approprier de cette charte-là pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Premier point. Deuxième point, il faut comprendre que le docteur Konaté l'avait dit que cette charte-là ne pourra pas être une loi organique. Je peux être d'accord. Ce n'a pas été dit dans le document que la charte sera promulguée comme une loi organique. C'est moi qui l'ai pensé comme ça. Mais d'autre part, ce qui
est. Ça peut être une loi.
Ce qui a été dit, c'est qu'il y a... parce que ça va passer au CNT.
C'est ça. Moi, je suggère que
ça va passer au CNT.
Garde ça comme en l'état d'une charte morale. Ça va donner plus de flexibilité, de pouvoir prendre en compte beaucoup de choses.
Déjà, son nom charte, ça veut dire que c'est quoi? C'est un canevas, c'est une référence. La charte, c'est une référence avec le pour lequel c'est une chance pour le Mali d'avoir une référence qui a été élaborée par tous les Maliens, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour et résoudre tous les problèmes entre les Maliens.
D'accord.
C'est juste pour dire que cette charte.
On a dit qu'elle serait exécutoire. On en est où aujourd'hui? Ils ont mis en place un comité de suivi.
Juste un truc à cette charte là, il faut comprendre que ce n'est pas un accord, ce n'est pas les accords d'Alger où on peut venir s'asseoir. C'est une charte, c'est une référence.
Morale.
Une référence sur laquelle, comme on a dit, comme son Excellence Issoufou Maïga a dit, et comme son Excellence le Président Goïta l'a affirmé, cette charte-là, ce sera une référence sur laquelle on va se baser pour résoudre les problèmes.
Comme il est délégué une information à faire remonter pour que nos deniers publics soient épargnés, traduire les documents dans toutes les langues, c'est une perte de temps. Il n'y a que le français et l'arabe qui sont lus. Si les documents sont traduits en français et en arabe, ça peut passer. Mais dans les autres langues, quelle est la proportion des populations qui sont en mesure de lire dans leur langue et comprendre?
Ce sont les temps des questions qui vont peut-être rester en suspens si c'est là où nous conduit dans
Je peux répondre parce que
la transition, nous l'avons dit, ces deux premiers ministres n'ont pas, en tout cas la dernière fois, ils ont eu des fortunes diverses, sauf que cette fois-ci, on peut dire pratiquement qu'ils sont pratiquement dans le même moule, car on peut peut-être penser que, en tout cas, la justice se serait intéressée à leur sort, car Moussa Mara a été empêché la semaine passée de prendre son vol. Et Choguel, nous l'apprenons auprès de nos confrères du Soft, le journal du Soft, qui, dans les jours à venir, doit aller, en tout cas, s'expliquer pour des sommes indûment perçues. aperçu, sinon au cours de son passage à la primature, mais aussi quand il était le PCA de la GFO. Alors, Sissoko, qu'est-ce que nous pouvons retenir rapidement de cette affaire, sinon de ces deux affaires,
Oui, effectivement, vous l'avez rappelé la semaine dernière, je crois qu'on a déjà abordé, mais sous un autre angle.
Justement.
Effectivement, et pour le cas de Moussa Mara, c'était justement voilà, son interpellation, en tout cas sa convocation à la Bige et puis auprès du procureur de la commune 4. Mais cette fois-ci, il a été empêché justement de voyager. Je crois que cet acte-là, franchement, est diversement interprété. Parce que pour certains, c'est tout simplement pour ternir l'image du pays. Parce qu'empêcher un ancien Premier ministre, sur qui, en tout cas, aucune charge n'est retenue pour l'instant, et alors aucune signification, en tout cas, de ne pas voyager ne lui a été donnée, du fait. Donc je crois que c'est vraiment un acte qui pour tout bon démocrate, pour tout républicain, c'est un acte maladroit, tout simplement. Maintenant, peut-être qu'on ne sait pas si c'est sous ordre, ou en tout cas de la justice, qu'on lui a interdit de prendre son vol pour en tout cas aller dans ce pays-là, pour tenir en tout cas une conférence ou quelque chose comme ça, participer en tout cas à un événement. Je crois que c'est dommage pour notre pays encore, et ça va encore une fois de plus aller à l'encontre en tout cas de cet esprit-là qui est sorti, si vous voulez bien, de cette conférence, de cette cérémonie, alors au cours de laquelle on a remis en tout cas une charte d'entente, une charte de paix, de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation tant qu'on continue en tout cas à museler, à harceler, à réprimer en tout cas des gens, des Maliens. Et voilà, donc pour Moussa Mara, c'est regrettable. Mais pour Choguel, je crois que, et même là aussi, je crains qu'il n'y ait pas en tout cas un lien de cause à effet, parce que tout le monde sait quand même que le Premier ministre Choguel Maïga est sorti, il a fait en tout cas une très grande sortie dans laquelle il a en tout cas fustigé beaucoup de choses en tout cas, par rapport à la gestion du pays. Je crois que c'est après ça qu'on a appris, comme vous l'avez rappelé, sur les réseaux sociaux qu'il serait convoqué pour justifier en tout cas 1,8 milliard de manque en tout cas, au niveau de la GFO. Je crois que si c'est vrai que franchement c'est injustifiable comme n'importe quel justiciable, donc je crois que s'il y a des faits qui sont en tout cas qui lui sont reprochés, je crois qu'il doit répondre. Mais je pense honnêtement que le moment, le timing, c'est ce qui fait que beaucoup de gens aussi vont peut-être faire un lien entre sa sortie et cette convocation. Donc dans tous les cas, et ça ne fera qu'affaiblir davantage le régime, parce que aujourd'hui, les gens ont comme l'impression que toute voix dissonante, toute voix discordante doivent être en tout cas réduite au silence. Et je crois que c'est malheureux pour notre pays.
Soumaïla, à votre regard par rapport à ces deux situations, ces deux premiers ministres?
Bon, je pense que dans ce pays, ces derniers temps, on est passé maître en ce que je qualifie entre guillemets des sorcelleries juridiques. C'est bien qu'on ait connaté sur ce plateau, parce que c'est... J'ai pas eu le temps, je me suis posé des questions, j'ai des interrogations pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de pousser la réflexion parce que je suis sur des consultations. Aujourd'hui, on a été tellement dans le jeu qu'on ne sait plus quel texte nous gouverne. Est-ce la constitution de 2023? Est-ce la constitution de 92? Parce que pour que la constitution de 2023 soit appliquée, il fallait un certain nombre de préalables qui jusque-là ne sont pas opérationnels. Est-ce qu'on est dans la constitution de 92? C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est dans la charte? Donc autant de questions qu'on est en droit de se poser. Et partant de là, je me dis, est-ce qu'une juridiction comme le tribunal de la commune 6 a le droit d'interpeller un ancien Premier ministre? Est-ce qu'une juridiction comme le pôle économique et financier a la latitude, la compétence requise pour interpeller un ancien Premier ministre? C'est des questions que je me pose et je pense que Konaté pourra nous édifier. Mais pour rapidement terminer, encore une fois, Youssouf l'a dit, les timings. Ces deux premiers ministres, Moussa Mara en premier, est aujourd'hui considéré comme une voie critique par moment de la transition. Choguel, il a fait une sortie. Maintenant, les timings. Pourquoi ces deux premiers ministres sont inquiétés? Est-ce parce qu'ils ont commencé à critiquer ou est-ce parce que il y a véritablement des choses à retenir contre eux?
D'accord. Touré, qu'est-ce que vous retenez de ces deux premiers ministres, en tout cas,
dernière nouvelle? C'est que je retiens du docteur Choguel Kokala Maïga et de Moussa Mara. Tous les deux, ce sont des éminentes personnalités de la vie publique malienne. Donc personne ne peut le nier, c'est des personnes très très importantes qui ont joué des rôles, des très importants rôles dans la vie publique du Mali. Alors, ça c'est ce que je peux souligner. Ils ont été, pour le docteur Choguel Kokala, il a été plusieurs fois ministre avant d'être premier ministre. Moussa Mara a également été ministre avant d'être premier ministre. Donc ils sont dans les rouages, je peux considérer que c'est des grands commis de l'État. Okay. Et c'est des grands patriotes. Mais j'ose espérer, parce que vu l'évolution de la situation actuelle, j'ose espérer que le Mali va être au-dessus de tout ça. D'accord. Quels que soient les clivages qui existent, quels que soient les problèmes qui existent, on doit être capable de mettre le Mali au-dessus de ça. D'accord. Et de voir vraiment de façon un peu plus loin, un peu plus que de voir les faits qui se passent tous les jours.
D'accord. Voilà. On aurait souhaité approfondir la discussion et nous sommes sérieusement pris par le temps. Docteur Amine, nous allons finir par vous. Docteur Konaté, allez-y.
Écoutez, il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de réconciliation possible, ni de gouvernance vertueuse, sans respect de la loi. Et au minimum, sans respect des droits fondamentaux de l'être humain. Ce serait un leurre que de croire le contraire, ou de penser le contraire. Moussa Mara a été empêché, vous avez les justes mots, empêché de prendre son vol, de façon illégale. Vous l'avez rappelé. Ces avocats ont fait un communiqué là-dessus. Aucun acte administratif, je vous dis qu'il doit être présenté pour justifier cet empêchement. Donc c'est vraiment un empêchement, c'est même pas une interdiction, c'est un empêchement. C'est une voie de fait. Et les policiers qui lui ont notifié cela ont dit que c'est sur ordre. Maintenant, de X, ils ont reçu l'ordre de ne pas le laisser.
Sans notification.
Ouais, c'est sur le champ, quoi. Voilà. C'est au moins, ils voulaient embarquer qu'on a dit voilà, vous ne pouvez pas monter parce qu'on nous a reçu un ordre de ne pas vous laisser embarquer. Normalement, ces policiers, s'ils étaient respectés de la loi, n'auraient jamais dit ça à Moussa Mara. Parce qu'ils auraient dit à leur supérieur, pour donner nous cette instruction justifiée au regard de la loi. Parce que personne n'a le droit de respecter une instruction manifestement illégale. C'est la loi qui le dit. Parce que la liberté de circuler, c'est une liberté fondamentale de l'homme. C'est garanti par la loi suprême du Mali. La constitution. Les constitutions. Que ce soit celle de 92, qui est encore en vigueur, facilement, celle de 2023, et la charte. Nous sommes dans une triarchie constitutionnelle. Malgré ça, je n'ai jamais vu. On nage dans ça. Donc, quel que soit le texte pris, la liberté de circuler, c'est une liberté fondamentale. D'accord. Et en droit pénal, ils le savent, en droit tout court, la règle, c'est la liberté. L'exception, c'est l'interdiction. Donc, tant que Mara n'a pas été notifié par le procureur, ce qui n'a pas été fait, pour dire, bon, voilà, restez voilà, dans nos murs, restez au Mali, voilà, je vous interdis de voyager, en attendant qu'on finisse avec l'enquête, si l'enquête n'était pas close, à ce moment-là, oui, Mara tel que je le connais.
C'est cependant, rapidement, le soir de son audition au niveau du tribunal de la commune 4, son avocat quand même, a fait un communiqué sur sa page Twitter, un communiqué au public. Il dit que l'affaire poursuit son cours. Est-ce que cette expression ne veut pas dire que Mara serait toujours en tout cas...
Non, pas du tout. Je vous dis, je vais essayer de rappeler. Pas du tout. Ça va bien pour vos téléspectateurs. En fait, il y a eu juste une enquête préliminaire. C'est une simple enquête d'information ou d'investigation. BJ, écoutez quelqu'un, demande, pose des questions sur voilà, ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est tout. Et après, les résultats ont été montés chez le procureur. Le procureur a convoqué Moussa Mara. Le procureur avait trois possibilités. Soit il décide de le poursuivre, donc il retient une charge contre lui. Il saisit un juge, un magistrat. Donc il saisit un juge, c'est tout. Lui. Ça, c'est la première possibilité. Et soit il décide de le poursuivre sans le détenir. Parce que, par exemple, quand il saisit le juge peut décider de lui mettre un mandat. Il peut décider de bon, mettre un mandat de dépôt. Ça, c'est une possibilité. Ou sinon, il décide de le poursuivre, saisit le juge, et puis on le laisse libre de ses mouvements. Donc il est poursuivi ça. Ça va être détenu. Ou troisième possibilité, c'est de classer l'affaire sans suite. D'accord ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le procureur n'a retenu aucune charge contre lui. Okay. Un, n'a pas saisi un juge, n'a saisi aucun juge, okay, ne concernant aucun mandat. Deux, troisième possibilité, c'était de classer l'affaire sans suite. Ce qu'il a dû faire, il a préféré j'ai envie de dire, t'as le flou, parce qu'il a dit d'aller et qu'au besoin, ils vont l'appeler.
D'accord.
Vous savez, des plans, je termine. La conclusion, c'est quoi ? Okay. C'est que, n'ayant aucune charge et aucune interdiction de voyager, la règle, c'est quoi ? C'est la liberté. C'est que tu es libre de circuler.
C'est ça la conclusion de droit.
Rapidement, le cas Chogel Kokalamaïga aujourd'hui, si les faits
sont... Je ne vais pas commenter, permets-moi d'utiliser le temps que je vais consacrer Chogel pour répondre à des questions qu'il a posées. Un ancien ministre peut bien sûr être interpellé, être convoqué par le procureur. Il n'y a aucune immunité. Quoi,
okay. Donc la préoccupation est prise en compte. Nous sommes sérieusement pris par le temps et c'est ce qu'il fallait retenir en tout cas de ce débat de ce dimanche qui avait comme invité Youssouf Sissoko, journaliste fit un plaisir, M. Sissoko, Soumaïla Alla, enseignant chercheur. Merci également à vous, docteur Amadou Konaté. Il est juriste plébisciste, il est également analyste politique. Merci à vous, docteur Konaté. Voilà, Asseiba Touré, il est entrepreneur malien résident en France. Il est fondateur de la société Ingetim. Merci à vous, M. Touré, surtout de venir nous voir quand vous le souhaitez. Pas merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain dans votre émission Le QG de l'Actu. D'ici là, nous allons nous quitter, en tout cas, à travers ces vers qui nous font penser, ces vers justement du docteur Mahamadou Konaté pour nous permettre à chacun de méditer par rapport à ce que nous pouvons apporter à la nation. Merci, à dimanche prochain. Au revoir.
Qu'on retire à ses vantards les titres, les toges et les brassards. Vous les verrez hurler tels des loups affamés. Ils n'ont Dieu et de langue que pour se goinfrer. Formés aux frais de la société, nourris et logés au nom de l'humanité, docteurs, professeurs, ingénieurs, magistrats, chacun ne s'occupe plus que de son état. Laissant la nation brûler dans la dissension et la perdition. Qu'il est fou celui qui croit se sauver seul. Seul il mourra, abandonné dans son linceul. L'un après l'autre, chacun se brûlera. Car ensemble, tout le monde échoua. Ainsi le mental s'aveugle et se condamne. Quand l'avidité meugle et ses dames.